Bonjour! Aujourd'hui, à l'émission « Conte-moi ton histoire », je reçois le professeur Benoît Grenier. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Stéphanie, ça me fait vraiment plaisir.
Vous enseignez l'histoire canadienne pré-industrielle depuis 2009 au département d'histoire, duquel vous avez été son directeur durant 5 années. Depuis peu, vous êtes devenu vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes l'auteur de multiples ouvrages et articles sur l'histoire de la vallée du Saint-Laurent des 17e, 18e, 19e et 20e siècles. Vous vous intéressez également au pouvoir féminin sous le régime français par l'étude des procuratrices et des seigneuresses. Votre tout dernier livre, Persistance seigneuriale, histoire et mémoire de la seigneurie au Québec depuis son abolition, est paru aux éditions du Septentrion. Je dirais, professeur Grenier, que votre livre est une formidable invitation à re-questionner la mémoire et l'histoire de la société québécoise à l'aune de son passé féodal. J'aimerais que vous nous retraciez d'abord la genèse de ce livre dans votre parcours de chercheur.
Merci Stéphanie pour cette entrée en matière. Effectivement, on peut parler d'un aboutissement. Hein. C'est un projet qui a longuement mûri. C'est le terme de quelque chose. Ce quelque chose, c'est la réflexion que je porte depuis 20 ans maintenant, depuis mes études de maîtrise, même plus que 20 ans, presque 25, sur les questions liées à l'institution seigneuriale dans le Québec ancien, de la Nouvelle-France jusqu'à son abolition et au-delà. Donc, si je replace, par exemple, dès mon mémoire de maîtrise, je travaille sur des questions seigneuriales, mais ce qui m'intéresse, c'est la mobilité sociale, c'est les individus d'origine modeste qui accèdent à ce statut, hein, évidemment, seigneurial, statut qui est, bien sûr, celui d'élite dans la France de la même époque, mais qui devient accessible compte tenu du contexte là, de la colonisation de la vallée du Saint-Laurent par les Français au 17e siècle. Mais là, à l'époque, c'est vraiment la Nouvelle-France. C'est une histoire classique. Je m'arrête à la fin du régime français. C'est ma barrière chronologique. Et puis, au doctorat, je poursuis dans la longue durée en rebondissant en quelque sorte sur cette question de la présence des seigneurs dans le monde rural, parce que je m'étais aperçu en finissant ma maîtrise, c'était en l'an 2000, que ce qui constituait peut-être le caractère le plus marquant dans le parcours de ces individus, c'était le fait d'avoir pris possession au sens propre et d'avoir surtout pris résidence. Ce qui, finalement, s'est avéré le lot d'une petite minorité. Et puis, ma thèse a cherché à observer tout le groupe des seigneurs dans la longue durée du régime seigneurial pour voir la présence et l'impact de cette présence sur les rapports sociaux, à la fois, on pourrait dire, conflictuels ou harmonieux. Et dans un de mes chapitres, je disais, c'est un peu chercher l'aiguille dans la botte de foin, chercher l'harmonie, le conflit laissant évidemment plus de traces. Ma thèse de doctorat, elle s'arrêtait à 1854. 1854, c'est la date classique à laquelle on fait terminer l'histoire du régime seigneurial. On ouvre n'importe quel ouvrage, là, une histoire sociale ou une synthèse d'histoire du Québec. On va voir toujours cette date de 1854, c'est l'abolition du régime seigneurial. Or, dès la fin de mon doctorat, on est en 2004-2005, je termine ma thèse en disant, bon, c'est bien, 1854, mais il faut aller au-delà, parce qu'on s'aperçoit bien que dans le monde rural, ces individus que j'avais étudié plus attentivement une dizaine de familles sur plusieurs générations, 2 siècles et demi, donc on s'aperçoit que ces familles-là, ben, ouf, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il n'y a rien finalement de si fondamental qui change en 1854. Je le voyais bien déjà. Il y avait quelques petits articles ici et là qui évoquaient ça, mais sans plus. Donc, je me suis dit, il faut aller plus loin. Et je me suis lancé donc dans un projet qui a eu plusieurs phases pour étudier les traces, la survivance, à la fois économique, politique et culturelle et mémorielle du régime seigneurial après son abolition.
« Je vais aller déjà d'entrée de jeu sur une note plus personnelle parce que vous nous y invitez. Pourquoi avoir débuté cet avant-propos par votre famille, votre histoire familiale? Elle est même en images. C'est une démarche plutôt inhabituelle pour un ouvrage en histoire, même si je puis dire, pour un historien.
Bien, je dirais que c'est un concours de circonstances. Ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé de longue date. Hein. En fait, à quelque part, c'est sûr que cette histoire-là, c'est un peu la nôtre à tous les habitants du Québec qui sont à quelque part là, issus de ces trois siècles de colonisation française en Amérique du Nord. Donc, bien sûr, ma famille, comme toutes les autres familles, ont participé à cet univers-là en étant des censitaires, hein, des paysans qui possédaient imparfaitement le sol qu'ils cultivaient jusqu'à un passé récent. Il faut savoir que depuis que j'ai publié en 2012, La brève histoire du régime seigneurial chez Boréal, donc un petit ouvrage qui veut synthétiser la question. Je reçois, pas tous les jours, mais je reçois fréquemment des courriels, des messages de lecteurs, des téléphones parfois, donc des gens qui m'appellent, soit pour me raconter des choses, et je reçois un message d'un individu qui me raconte une histoire, comme plusieurs nous en ont raconté pendant ce processus-là, en me disant « Ah, votre livre, et c'était pas ce livre-là, c'était mon précédent livre, votre livre m'a fait penser à mon oncle qui allait annuellement à Rivière-du-Loup récolter les rentes seigneuriales. » Il me dit « Cet oncle, c'était un tel notaire à Beauport. » Eh bien, il s'avérait que cet oncle, c'était mon voisin quand j'étais enfant. Alors, c'est de là un peu que germait l'idée de dire, d'accord, j'avais au plus près de moi déjà toutes les dimensions de cet héritage seigneurial. Évidemment, je n'en mesurais pas l'existence et la signification à cette époque-là, mais je savais, enfin, que ce vieux voisin notaire, qui avait 60 ans de plus que moi, qui aurait pu être mon grand-père, allait annuellement à Rivière-du-Loup et qui appartenait à un univers qui n'était pas celui de ma famille. Et j'ai décidé donc d'intégrer cette histoire-là, effectivement très personnelle, dans l'avant-propos. Je trouvais qu'il y avait là une manière assumée d'entrer dans cette histoire. Et puis ensuite, ben là, on quitte ce volet un peu plus intime pour entrer dans l'analyse, dans le travail de recherche issu de ce long processus d'histoire, de travail en archives et d'enquête orale.
On dit que le régime seigneurial est aboli en 1854, mais qu'il a mis du temps à s'éteindre. L'écrivaine Gabrielle Roy le dit en ces mots, et vous la citez d'ailleurs dans votre étude. « Sur le bord du Saint-Laurent vient de mourir d'extrême vieillesse un géant qui fut maître de la terre. » J'aimerais que pour les bénéfices du balado, vous nous expliquiez cette lente agonie.
Gabrielle Roy écrit ça en février 1941. Le régime seigneurial officiellement est éteint depuis 1854. À l'époque, Gabrielle Roy est journaliste, reporter, comme on dit à l'époque, au Bulletin des agriculteurs. Donc, un magazine qui est vraiment largement diffusé dans les foyers aux quatre coins du Québec. Donc, la question de l'abolition du régime seigneurial, bien sûr, ça préoccupe une large partie de la population du territoire québécois dans la première moitié du 20e siècle. On retourne en 1854. 1854, déjà, c'est l'aboutissement de quelque chose qui dure depuis longtemps, parce que c'est depuis, ben, on pourrait dire depuis la conquête de 1760 que... on se trouve un petit peu face à des univers culturels en matière d'occupation du territoire, donc la seigneurie française classique avec une propriété imparfaite du sol, des droits seigneuriaux qui pèsent de manière inaliénable sur chaque parcelle concédée au fil du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas racheter hein, les droits seigneuriaux. On est un peu pris avec ça. La France va s'en débarrasser avec l'abolition des droits féodaux à la Révolution, entre 1789 et 1793. Mais le hasard a voulu que finalement, les Britanniques fassent perdurer l'institution française bien longtemps après l'abolition en France. Donc, tout au long du 19e siècle, ça devient, aux yeux de de beaucoup, de plus en plus anachronique, en particulier pour, je dirais, dans le contexte de l'essor du capitalisme industriel, de l'industrie, mais surtout de l'urbanisation. Parce qu'il faut savoir que quand on pense aux seigneuries, on pense à la campagne. Aujourd'hui, on a évidemment un imaginaire assez folklorique. Mais au 19e siècle, les seigneuries, c'est Québec, c'est Montréal, c'est Trois-Rivières, c'est Sorel. C'est le cœur de cette vallée du Saint-Laurent proto-industrielle et industrielle qui se développe, c'est Saint-Hyacinthe. Bon, alors, le régime seigneurial, il inclut de nombreuses entraves à la liberté d'entreprise, parce que quand on est en contexte de seigneurie, à la différence des cantons qui existent depuis la fin du 19e siècle, eh bien, on est obligé hein, de demander l'autorisation au seigneur pour tout usage, par exemple, de la force motrice de l'eau. Alors, on pense aux moulins, bien entendu, puis plus on avance dans le siècle, les moulins, ce ne sont pas que les moulins à vent, mais tous les moulins à carder, les moulins à bois, surtout les scieries. Donc, on abolit, mais on n'est pas en contexte révolutionnaire, on a une loi d'abolition qui est extrêmement soucieuse des droits de propriété, puisque la propriété, on sait, hein, c'est une valeur sacro-sainte hein, du libéralisme qui vit son âge d'or au milieu du 19e siècle. On va reconnaître tous les droits des seigneurs, c'est-à-dire qu'on abolit. Mais attention, on abolit en s'assurant d'indemniser à juste titre les seigneurs pour ce qu'ils perdent. Mais les seigneurs, évidemment, ils sont encore influents. Plusieurs sièges au conseil législatif qui va revoir la loi à l'avantage des seigneurs à la toute fin du processus, à l'automne 1854. Donc, les seigneurs vont demeurer propriétaires de tout ce qui n'est pas concédé. Alors ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que les seigneurs, ils avaient la propriété éminente sur toutes les terres concédées au fil du temps. Ça veut dire que même si les paysans et en ville, c'était la même chose, pouvaient vendre, transmettre, léguer en héritage, morceler leurs terres, il fallait toujours que les droits soient payés aux seigneurs annuellement, les censées rentes, les lots et ventes, quand il y avait des transactions immobilières, la banalité du moulin. Donc, on va faire un calcul pour voir ce qu'il faut rembourser aux seigneurs de ce qu'ils perdent, et ça représentera une somme autour de 10 millions de dollars en 1854-1800. C'est un processus qui va durer 10 ans, là, jusqu'en 1864. Mais on va laisser aux censitaires la charge de racheter la rente seigneuriale, les fameuses censées rentes là, qui se payaient depuis des temps immémoriaux, généralement autour du 11 novembre. Donc, on leur laisse, entre guillemets, le rachat de la rente pour se libérer donc, de cette autorité seigneuriale.
Et permettez-moi, oui. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on parle d'une lente agonie?
Ben, oui, parce que la loi n'a pas mis de date d'échéance. C'est-à-dire que les individus pouvaient, s'ils le voulaient, à partir de 1854, et ça, c'est la grosse différence avec ce qui se passait avant, aller chez le notaire, obtenir quittance, payer une somme qui, grosso modo, équivalait à 17 années de rente seigneuriale. Mais la majorité des habitants dans le Québec du 19e siècle n'ont pas accès au capital et on leur laisse l'option de continuer à payer jusqu'à ce qu'ils aient racheté chez le seigneur leur rente capitalisée. Donc, annuellement, on leur laisse payer, le choix de payer le même montant, à la même date, selon les mêmes modalités. Donc, la plupart du temps, chez le seigneur. Et bref, comme on ne met pas de date de fin, on s'apercevra dans les années 1910-1920 que ces questions-là ressurgissent épisodiquement à l'Assemblée législative à Québec. Entre-temps, il y a eu la création de la province de Québec. Donc, les questions foncières sont redevenues de compétences provinciales. Donc là, c'est le gouvernement du Québec qui va intervenir. Mais bon, de temps en temps, un député se lève à la Chambre. Mais que faire avec les rentes seigneuriales qui grèvent nos agriculteurs des vieilles provinces, des vieilles paroisses, alors que dans les cantons, ils sont... Bon, alors, ce discours-là revient, mais il y aura certains acteurs qui vont plus que d'autres vouloir faire prendre conscience au gouvernement de l'anachronisme. On a voulu mettre fin à quelque chose qui était déjà anachronique en 1854, mais là, on est rendu en 1910, 1920, 1930, et tous ces gens-là continuent de payer. À partir des années 30, les choses bougent. 1935, on finit par adopter une loi qui crée le Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales, donc l'organisme qui aura pour but de libérer une fois pour toutes toutes les terres qui continuent de porter ce fardeau seigneurial. Et là, ben évidemment, il y a un processus complexe que j'explique dans l'ouvrage, mais il faut savoir qui paye encore et qui a droit à ses rentes seigneuriales. Au terme de cet exercice, le 11 novembre 1940, et c'est ce que raconte Gabriel Roy dans son article, c'est la fin. C'est la dernière fois qu'il y aura un paiement personnel, de personne à personne, d'une rente dite seigneuriale, mais qui ne l'était plus. Et on va, l'organisme, le Syndicat national du rachat des rentes, va indemniser tous les seigneurs, et on a toute la série de chèques là, qui courent dans les années 40 jusqu'à 1950, pour indemniser une fois pour toutes, on pourrait dire une deuxième forme d'abolition. Et là, on parle de 2,3 millions de dollars en argent de l'époque. On serait certainement au-delà de 50 millions aujourd'hui. Mais l'organisme transforme, du point de vue du censitaire, ce paiement-là en une taxe, une partie de taxe municipale, et prévoit que celle-ci devra être acquittée au plus tard en 41 versements. Donc, on ne fait pas la même erreur qu'au 19e siècle, on prévoit une date de fin, mais ça, ça nous menait à 1981. Alors là, c'est drôlement près de nous. Et là aussi, bon, dans l'enquête, beaucoup de gens ont rapporté ce souvenir de ces paiements-là, des secrétaires trésoriers de municipalités qui les ont administrés, des habitants qui la payaient. Et là, on voit bien, et puis c'est ce qu'on sent, je pense, c'est ce que j'ai voulu rendre dans le livre, c'est qu'au fil du temps, ce processus en vient, il est tellement lent et il s'étend sur une telle durée qu'il vient finalement à faire oublier ce que pouvait être réellement ce fardeau, à la fois symbolique, mais aussi financier, là, dans une période, le début du 20e siècle, où les paysans, quand même, roulent pas tous sur l'or. Donc, c'est le 11 novembre 1970, toujours le 11 novembre, hein, cette date symbolique depuis certainement le Moyen-Âge, la Saint-Martin d'hiver. C'est à cette date-là que les secrétaires trésoriers des villes du Québec vont transmettre une dernière fois un versement au Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales, qui va fermer ses livres.
J'aimerais vous entendre sur les représentations du régime seigneurial. Il y a tout un inventaire qui participe à ce qu'on appelle l'attachement seigneurial. Il y a la famille, bien sûr, il y a les biens, il y a les objets. Ben, expliquez-moi ce champ des représentations.
Ben, d'abord, il faut dire qu'on part avec une historiographie du régime seigneurial qui, pendant facilement, depuis son abolition et même avant son abolition et jusqu'aux années 1970, idéalise à outrance le rôle des seigneurs et du régime seigneurial. C'est cette vision là, du bon seigneur colonisateur qui est nécessairement positive à l'édification de la nation canadienne-française. Donc, tout ça participe là, d'un imaginaire qui idéalise plus globalement la Nouvelle-France. Il y a quelque chose qui marque, je pense, les esprits jusqu'à nos jours, malgré une transformation radicale opérée à partir des années 70 par une historiographie marxiste ou de tendance marxiste et qui va influencer, je dirais, le savoir historien actuel. Mais qui, à mon avis, n'a jamais réussi à percer le mur des manuels scolaires et n'a pas contribué à une altération de la mémoire de l'objet seigneurial. Alors, ça, c'est des questions qui m'intéressaient beaucoup parce que on s'apercevait bien que les épisodes relatés, les anecdotes racontées, tant par les descendants de paysans que par les descendants de seigneurs, relevaient de ce registre d'une perception idéalisée du régime seigneurial. On pourrait dire à la Aubert de Gaspé, hein, l'auteur des anciens Canadiens, donc, et qu'on transporte, qu'on colporte au fil du temps, puis qui colore encore aujourd'hui, je dirais, nos manuels scolaires, les droits et devoirs réciproques, l'occupation du territoire. C'est ce qui fait qu'on n'est pas capable, dans l'histoire du Québec, de regarder l'objet seigneurie autrement que comme du peuplement et de l'occupation du territoire. Alors que ça fait partie de l'ensemble, mais ce n'est pas tout. Alors, justement, quand on s'est lancé dans l'enquête orale, on a rencontré un grand nombre de personnes, surtout, il faut le dire, des gens qui ont appartenu ou qui descendent de familles d'ascendance seigneuriale pour qui ce bagage-là avait encore un sens très, très fort, et on l'a senti. Puis bien sûr, c'est un des biais de l'enquête, c'est-à-dire que, bien entendu, les personnes à qui on n'a rien transmis ne se sont pas manifestés, n'ont pas souhaité exprimer quelque chose, puisque cette mémoire-là ne les habitait plus. Il était important pour nous d'aller sur les lieux, de permettre à ces personnes le plus possible d'exprimer et de raconter leur parcours, leurs souvenirs dans les lieux qui venaient alimenter, stimuler la mémoire. Et en plus, ben, ces objets, effectivement, ces lieux, que ce soit le fleuve à Trois Pistoles, hein, sur lequel, je dirais, veille la famille Rioux depuis trois siècles, quand on a rencontré Madame Anita Rioux le jour ou la veille de ses 95 ans, on voyait hein, son œil vif et encore habité par ce rapport de sa famille depuis trois siècles au territoire, et notamment au fleuve. Ailleurs, ce sont des arbres, ce sont des rivières. Donc, la nature est omniprésente. Puis c'est ce qui nous a amené aussi, vous le savez, Stéphanie, à forger ce concept d'éco-seigneurie pour tenter de rendre compte de ce rapport très intime que ces familles seigneuriales entretiennent au territoire et qui est ancré dans leur conception des choses, en tout cas. Et on se souvient de cette grande épinette là, devant la résidence de Dr. Douglas Cann. Au Bic, là où il revient annuellement comme en pèlerinage et comme le faisait sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, qui étaient les seigneuresses de cette localité.
Écoutons, si vous le voulez bien, à ce sujet, Dr. Douglas Cann, qui évoque cette importance-là, ce rapport à l'environnement, au territoire, mais surtout l'esprit qui se dégage et d'une certaine manière, une fierté.
Je pense que ça, c'est le sens de l'histoire de mes ancêtres. Et ça, c'est dans le terrain, dans la maison. Et ça, c'est une chose de fierté d'être une partie de l'histoire du Bic. It's a spirit, I think. Here, it feels millions of years old. It's just a very ancient sense. And mon arrière-oncle, Mervyn, qui a été tué dans la Première Guerre mondiale, il a dit de Bic, il a dit, ça c'est la terre de Dieu, le God's country, le pays de Dieu. And that would capture the essence of the sense of the seigneurial background. That it's a sense of being part of a place on the land, on the planet, that has this history and also has a sense of the love of life.
Alors là, il y a vraiment des enjeux identitaires très forts et liés à la nature. On avait demandé aux participants, lorsqu'on les rencontrait pour l'enquête orale, de peut-être préparer un objet. Ça pouvait être des photos, ça pouvait être des documents, ça pouvait être toutes sortes. On a eu droit à des boulets de canon. Qui évoquait ce bagage et cette histoire familiale? Donc, on ne savait pas trop ce que ça donnerait, mais ça a été extrêmement intéressant et ça nous a révélé des pans de la culture matérielle seigneuriale qu'on ignorait ou qu'on a oublié. Je pense à la canne seigneuriale que Mme Rioux arborait encore fièrement, que la famille possède toujours. Donc, évidemment, cette canne à pommeau d'or, un très bel objet d'orfèvrerie, mais fabriquée, la date est dessus, 1896. Ben ça nous dit, c'est 40 ans après l'abolition. Mais pour elle et pour sa famille, cet objet-là que son père avait représentait sa dignité seigneuriale à une époque où, en théorie, la seigneurie n'existe plus. Mais ce qui ressort, c'est que pour ces familles, il y a trois familles qui nous ont parlé de cet objet, de la canne à pommeau d'or, en l'appelant la canne seigneuriale ou la canne du seigneur, c'est que pour eux, concrètement, l'objet participe de l'identité familiale qui vient avec le statut seigneurial de la famille.
Je présume, si vous me le permettez, que cette enquête orale-là vous a fait faire un face-à-face avec vous-même. Qu'est-ce que ça vous a apporté?
J'y allais à pas feutrer, à double titre, parce que je ne suis pas un historien du temps présent, parce que je ne suis pas un historien de la mémoire et que je ne suis pas un praticien de l'enquête orale, mais je dois reconnaître que j'avais autour de moi, je dirais, de nombreuses personnes qui m'ont accompagné. Je ne m'y serais pas aventuré tout seul. Donc, ici, au département d'histoire, il y avait déjà quand même des précédents. Je pense au travail de Louise Bienvenue sur Boscoville, en particulier, qui avait terminé au moment où moi, j'amorçais cette recherche-là. Et puis, votre collaboration à la recherche de Louise Bienvenue ben, a permis plus rapidement peut-être de me dire « il faut faire ça ». Je n'y aurais pas... Parce que depuis longtemps, je me disais, il faut interroger ces gens-là, mais je ne suis pas sûr que j'aurais eu le réflexe de m'y aventurer ou l'assurance de m'y aventurer seul. Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment une aventure d'équipe. Et puis, je ne le cache pas, bien sûr, je ne me suis pas lancé dans des récits de vie parce qu'il fallait faire des choix. Puis parfois, ces entrevues étaient déjà très longues, mais il y a bien des moments où ça se transformait en récit de vie. On avait beau avoir un canevas en trois parties, assez structuré, alors que chez certains témoins, il fallait travailler fort pour aller chercher. Puis, il faut trouver le juste équilibre. Il ne faut pas non plus leur faire dire hein, ce qu'ils ne veulent pas dire. Mais on devait naviguer fort. Dans d'autres cas, une première question lancée et le témoin partait pendant 45 minutes. Et puis là, évidemment, il reste à dire, cocher, bon, il a dit ça, il a dit ça, il a traité d'à peu près tous nos objets. On peut revenir et lui demander de revenir ou d'approfondir certains éléments. Mais donc, la méthode, l'approche classique de l'histoire orale nous a servi. Et puis ensuite, c'est une question de construction de notre récit, comme avec n'importe quel type de source. Et puis moi, ça, j'insiste pour le dire. Et il faut le répéter parce qu'encore, on entend de nombreux discours qui restent frileux, et je serai poli, face au travail de la construction de l'archive orale et face au travail de l'historien praticien d'histoire orale. Mais évidemment, après... La force de cette archive, c'est quand on peut justement la croiser à d'autres formes d'archives, qu'elles soient mémorielles, comme les récits autobiographiques de famille, plus anciens, ou encore, bien entendu, aux récits orthodoxes de l'histoire.
Justement, à ce sujet, si nous pouvions aller écouter un des descendants de la famille Juchereau-Duchesnay de la seigneurie de Fossambeau, Yves Larocque de Roquebrune, on l'écoute.
J'arrive dans cette famille dont les ancêtres sont arrivés au Canada en 1634 avec M. Champlain et qui ont obtenu, après avoir posé des gestes méritoires, ont obtenu les lettres de noblesse et ont joué un rôle au niveau de la société, la mise en place des structures, etc. Et on a été élevés très jeunes avec un sens de noblesse oblige.
Il y avait un grand sens de la fierté d'appartenir à ses familles, mais de la fierté aussi et de la conscience du rôle joué par leur famille, leurs prédécesseurs, au sein des localités. Et là, ça me ramenait à mon objet initial, c'est-à-dire de la présence seigneuriale et du rôle qu'opère le fait que ces seigneurs soient des acteurs clés de la localité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas d'animosité, mais ce sont à tout le moins des individus qui ont une légitimité parce que présents et engagés.
Toute cette famille de Sol qui rejoint la famille de Louis-Joseph Papineau et plusieurs des familles qui ont été importantes dans l'histoire du Québec, ça fait partie de mon histoire à moi. Henriette de Sol, pour moi, je lisais son journal quand j'étais petite, ça fait vraiment partie de la famille. Et c'est maman qui a fait publier la première fois. Alors, quand j'étais petite, c'était normal.
Si la seigneurie a été un objet constitutif de l'identité, je l'appelle nationale, au sens de la nation québécoise, cet objet-là, il a été, et il faut le redire, idéalisé. Et il a été un peu parce qu'il s'est éteint dans une très, très, très longue agonie, une très lente agonie, il s'est progressivement détaché de son sens pour ne devenir finalement que un objet de folklore identitaire ou de reconstruction généalogique ou historique locale et qui est totalement, à mon avis, discordant du travail des historiens qui se sont penchés sur les archives du 18e et 19e siècle, surtout, qui montrent bien, depuis Louise de Chêne, Fernand Ouellet, Alan Greer et d'autres, qui ont renversé la vapeur et en montrant que le régime seigneurial était aussi objet d'oppression, évidemment, et que l'idée là, de l'harmonie et des censitaires qui dansent main dans la main avec le Seigneur autour du mai ne reflétait pas la réalité. Ce qui ressort de l'enquête, c'est que cette mythologie seigneuriale continue d'imprégner même autant les descendants de censitaires que les descendants de seigneurs qui ont totalement occulté. L'idée de conflit, quand on pose la question, les rapports entre les... Personne ne fait allusion à quelque conflit que ce soit, même si, bien entendu, ils ont existé.
Professeur Grenier, il y a différentes catégories relatives au patrimoine seigneurial. Il y a des descendants de familles seigneuriales. Parlez-moi de ces différentes catégories, mais aussi de ces passeuses et passeurs de mémoire.
Au point de départ, je voulais rencontrer les gens qui avaient la mémoire des rentes seigneuriales et des rentes constituées qui ont persisté. Je sortais de la partie économique de ma recherche. Mon point de départ était plus restreint, mais rapidement, je me suis aperçu, on a diffusé un appel à participer, et là, j'ai vu que les gens qui me répondaient n'avaient pas toujours mémoire de cet objet-là, le rapport, je dirais, plus monétaire ou ce qui subsistait des rentes seigneuriales, mais avaient une mémoire des individus, une mémoire des lieux. Et parfois, ça m'a permis de m'apercevoir que des gens ou des familles qui se sont éteintes et dont on ne pourrait plus rencontrer de descendants, nous sont racontés, je dirais, par des intermédiaires, que j'ai appelés effectivement des passeurs ou des porteurs ou porteuses de mémoire. Donc, dans un premier temps, il y avait les familles, on dirait l'axe famille seigneuriale. Ça c'est un gros morceau. L'axe porteur de mémoire, donc ça peut être le prêtre qui, dans sa paroisse, a fréquenté des paroissiens qui descendaient de la famille seigneuriale et qui continuent aussi tard que le 21e siècle à inhumer et célébrer les funérailles de ces individus. On a rencontré un prêtre, l'abbé Normand Bergeron, à Vaudreuil. Ça peut être des notaires qui, par leur pratique, ont été en contact avec les résidus, les vestiges du droit seigneurial. Et on a rencontré différents notaires, autant en milieu rural qu'urbain. Et ça nous a mis en contact avec la réalité du comme montréalais, hein, où les droits seigneuriaux ont été abolis d'une manière distincte. Et ça a amené une grande, grande complexité juridique, dont je parle aussi dans le volume. Et des individus qui, je me souviens, une dame qui m'appelle un vendredi après-midi en me disant « Je suis la châtelaine de Fossambeau ». Et après ça, je l'ai rencontrée plusieurs fois, mais des gens qui sont venus à la question seigneuriale parce qu'ils ont acquis des propriétés seigneuriales, des anciens moulins, des anciens manoirs.
D'ailleurs, à ce sujet, écoutons une de ces porteuses ou porteurs de mémoire, Madame Odette Dick, de la seigneurie de Fossambeau.
Quand je suis arrivée ici, c'est les bâtiments. Je me suis dit, on ne peut pas perdre ces témoignages-là, ces témoins-là de l'époque de fondation de notre pays. Alors ça, j'ai trouvé ça dommage. Et j'ai compris aussi dans mes enfants et mes petits-enfants que c'était complètement parti de l'univers. Nous, on en avait au moins un peu encore l'idée. Mais là, eux, c'est vraiment complètement... ça n'existe plus. Ça n'existe pas.
Le troisième volet qui s'est ajouté en cours de route, c'est la mémoire, je dirais, institutionnelle. Parce que à la fois le séminaire de Québec et le séminaire de Montréal ont été de grands propriétaires seigneuriaux et donc ont eu... Après l'abolition, ont maintenu certaines formes de propriété, pas les mêmes, là, mais les forêts pour le séminaire de Québec et les droits sur les lots vendus dans la cité de Montréal pour le rachat des droits seigneuriaux par les sulpiciens. Donc, on a eu la chance de rencontrer les supérieurs ou les anciens supérieurs de ces deux institutions qui ont été très, très, qui ont généreusement accepté notre invitation. Donc, ça a permis, je dirais, un panorama assez complet, à la fois donc des porteurs de mémoire et des individus, des communautés aussi, des familles seigneuriales et des institutions autrefois seigneuresses.
Je me souviens, et là je m'inclus parce que j'ai participé avec vous à l'enquête orale, mais il y avait aussi cette perspective intergénérationnelle qui a surgi. Alors, parlez-moi de votre échantillonnage en quelques mots.
Initialement, j'envisageais rencontrer une dizaine de familles. C'était ça l'objectif. Je me rappelle quand j'ai soumis ma demande CRSH, je parlais d'une dizaine de familles francophones, anglophones, répartition géographique là, assez représentative. Bon, finalement, on lance l'appel. Au final, on a rencontré 34 témoins, vrais témoins, là, avec lesquels on a mené des entrevues complète. Après ça, il y a plusieurs, j'appellerais micro-témoins ou des gens qui m'ont fourni de l'information, un courriel, une lettre. Ça m'a permis jusqu'à la toute fin, là, j'étais aux épreuves, puis je recevais encore un message, « Ah, il faut que je mette ça, c'est extraordinaire ce récit-là. » Mais nos 34 témoins venaient, si ma mémoire est bonne, de 16 anciennes seigneuries, avaient une légère, là, corrigez-moi si je me trompe, je le dis au début de la deuxième partie dans mon introduction, une légère surreprésentation masculine, hein, ce qui nous avait étonné d'ailleurs. Et sur le plan des générations, ça allait de 95 ans à 8 ans, la plus jeune. Puis effectivement, chez certaines familles, on a rencontré deux, voire trois générations. Je pense aux Lobinière-Harwood, où on rencontre le grand-père, la fille, la petite-fille. Et ça, c'est extrêmement riche parce qu'on comprend bien que la mémoire, c'est une construction, mais que là, il y a un jeu. On sait qu'il y a un jeu mémoriel, effectivement, qui peut être altéré par l'âge, le rapport au souvenir, au passé. Mais là, on avait la chance d'avoir, en gros, le même questionnaire, mais trois témoins qui bien sûr, n'ont pas le même rapport, notamment affectif, à ce passé. Et puis, si on avait pu faire cette recherche-là 10 ans, 15 ans avant, on aurait eu l'arrière-grand-père qui, lui, aurait été carrément dedans. Et ça, on l'a senti chez beaucoup de nos témoins, même les plus âgés, sauf peut-être Mme Rioux à Trois-Pistoles, qui vraiment, elle, a été une actrice des rentes seigneuriales dans les années 30, seule héritière de son père, le dernier seigneur. Mais ailleurs, on sentait bien toujours ce sentiment-là que il y avait quelque chose chez nos parents que nous, qui n'a pas été, peut-être pas transmise, mais qui n'a pas pris la même signification.
Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, professeur Grenier. Quels souvenirs gardez-vous de ces rencontres, de ces moments de partage?
Je dirais, et je suis convaincu que ce sera la recherche la plus importante dans ma carrière et celle qui m'a le plus marqué, positivement, évidemment. Je redonnerai probablement jamais dans l'enquête orale, parce que je reste un historien des périodes antérieures. C'est vraiment la question seigneuriale qui a justifié ce saut dans la question de la mémoire. Mais de rencontrer ces individus, dont moi je connaissais par les archives leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents, c'est extrêmement touchant. On a vécu des moments d'une infinie d'émotion, de tendresse, des rassemblements familiaux. Nous, on s'en venait rencontrer une personne, mais c'était toute la famille, c'était pratiquement réunie autour du coffre d'archives. Et là, c'est trouver aussi hein, le juste équilibre entre on vient recueillir un témoignage, mais bien sûr que comme historien, on aurait envie de regarder les documents avec eux, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Il y en a même qui nous ont confié des gros registres. Partez avec ça, M. Grenier! On se revoit en boss, là. Boum! Partez avec ça! C'est des humains. Et puis, ça nous amène à nous rappeler comme historien que même si on les lit dans les archives, et quels qu'ils soient, à quelque catégorie sociale qu'ils appartiennent, quel que soit leur genre, ben c'était des humains de chair et de sang. Honnêtement, moi, je l'ai toujours su, là, mais de rencontrer ces gens, de donner dans l'histoire, dans l'enquête orale, ça a été vraiment une prise de conscience additionnelle sur ceux à qui on ne peut plus avoir accès. Et depuis qu'on a fait l'enquête, il y a déjà 3 ou 4 de nos témoins qui sont décédés, beaucoup étaient âgés. On était bien conscients d'arriver à l'extrême limite. J'ai souvent dit qu'il aurait fallu que Marcel Trudel se lance dans l'histoire orale en 1950. Là, on aurait eu un rapport très, très direct à ceux qui étaient vraiment les témoins de la dernière étape de l'extinction. Là, on est dans la transmission, dans la mémoire. Mais pour moi, si je n'avais qu'à léguer qu'un ouvrage à la postérité, ce serait celui-là. et je pourrais dire que je n'écrirai plus rien demain matin, je mourrai heureux, Stéphanie.
Ah, merci. Vous faites allusion, professeur Grenier, en conclusion de votre excellent ouvrage aux enjeux postcoloniaux. J'aimerais peut-être vous entendre sur les angles morts de votre recherche.
Bien entendu. Bon, au premier chef, c'est la question autochtone que j'ai délibérément choisi de ne pas traiter. Certains diront que c'est un choix frileux. Moi, je considère que la mémoire seigneuriale des communautés autochtones, et là je parle de celles qui ont été en lien avec la seigneurie, là, que ce soit les Mohawks ou les Abénakis, qui ont possédé à différents moments des parties ou la totalité de seigneurie, les enjeux de propriété, ces questions-là demeurent litigieuses aujourd'hui. Donc, à mon avis, nécessairement, la mémoire de ce bagage et de cet héritage, il est nourri par l'enjeu l'enjeu, bien sûr, colonial et l'enjeu juridique. Alors, après, on peut prendre, un portrait macro de ce processus de colonisation et de voir le régime seigneurial comme un objet de dépossession, par exemple, des populations autochtones. Mais mon objectif à moi n'est pas là. Il est d'expliquer comment cet objet-là, cette institution qui a été centrale dans l'histoire de la Nouvelle-France, puis l'histoire du Québec et du Canada, a traversé les siècles et, effectivement, a survécu à sa propre mort. Maintenant, je suis bien conscient que ce que je vous disais tout à l'heure sur la mémoire un peu bucolique, folklorique du régime seigneurial, je pense que pour le moment, nos seigneurs, ils ont un petit peu échappé là, à la mouvance actuelle, mais je serais bien étonné que dans les prochaines années, les manuels scolaires ne soient pas davantage sensibles à ces questions et peut-être davantage, j'oserais dire, enfin, hein, critique de la position des seigneurs qu'on a eu toujours tendance à idéaliser depuis un siècle et demi. Donc moi, je ne suis pas là pour idéaliser, je ne suis pas là pour démoniser, je suis là pour comprendre.
C'est excellent. Professeur Grenier, c'était un immense plaisir de vous recevoir à l'émission Conte-moi ton histoire. Je vous remercie chaleureusement d'y avoir participé.
Merci, Stéphanie.
Bravo! Oh, les champs.